Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 14 à 15. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'a séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché est parvenu à son terme, enfante la mort. Amen. Nous sommes tous faits du même bois, nous sommes tous faits de la même chair. Et mes frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer, la tentation fait partie de notre vie. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, tentation, être tenté et être éprouvé, c'est le même mot en grec. La tentation est une épreuve, et l'épreuve est une tentation. Et voyez-vous, tous, qui que nous soyons, à n'importe quel moment de notre vie, nous sommes susceptibles d'être tentés. Tentés de différentes manières. Tentés dans nos pulsions, dans nos passions charnelles. Tentés dans nos passions spirituelles, entre guillemets, avec peut-être cette pensée qui nous vient dans le cœur de se dire « J'ai envie de tout décrocher, j'ai envie de tout laisser, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue avec le Seigneur, ou la vie ne vaut pas la peine d'être vécue tout court. » Comme nous l'avons entendu ce matin au travers d'un don spirituel, dans notre esprit peut parfois venir cette pensée de dire « Je préférerais en finir complètement avec ma vie, je préférerais peut-être tirer un trait sur tout ce que je suis et finalement laisser ma famille, laisser ce qui me fait souffrir et en mettre un terme à ma vie. » Ça, c'est une tentation qui n'est pas bonne, c'est une tentation qui est nuisible. On sait également que l'on peut être tenté vers le recul de certaines valeurs morales que l'on a pu instaurer dans notre vie. Bref, on peut être tenté de différentes manières et vous connaissez les tentations tout aussi bien que moi. La vraie question qui se pose, c'est de savoir comment on peut résister. C'est de savoir finalement de quelle manière nous pouvons les résister, être tenté. Jésus lui-même a été tenté. Être tenté n'est pas un péché. Être tenté n'est pas un péché. Quelqu'un a dit un jour qu'on ne pouvait pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête, mais par contre on pouvait les empêcher de s'y poser. Je trouve que cette image illustre très très bien quelle doit être notre comportement par rapport à la tentation. Être tenté, tout le monde est tenté. Jésus lui-même, dans le désert, sera tenté par trois fois par le diable. Et certainement, plus tard également, puisque les évangiles nous livrent que le diable s'est retiré, mais qu'il a attendu un moment favorable par la suite. On peut penser également que Jésus a été tenté dans son corps, par sa propre chair, étant donné qu'il était pleinement homme. Pourtant, il n'a jamais cédé la tentation. Frères et sœurs, je pense que nous aimerions tous être comme Jésus, et pouvoir empêcher les oiseaux de la tentation de se poser, de se nicher dans notre corps intérieur. Parce qu'une fois qu'ils sont nichés dans notre corps intérieur, une fois qu'ils sont nichés dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur, alors ils entendent le péché. Un jour, le patriarche Abraham, a reçu de Dieu la volonté de faire un autel. Et là, alors qu'il va montrer les sacrifices, autour de ce sacrifice, autour de cet autel, les oiseaux, les carnivores, les charognards vont se mettre à tourner. Et le prophète Abraham, toute la nuit, va lutter afin d'empêcher ces oiseaux de venir manger, de venir se poser sur le sacrifice qu'il avait réservé à Dieu. Nous pouvons résister à la tentation. Nous pouvons combattre la tentation. Ce n'est pas irrémédiable, mon frère, ma sœur, que tu cèdes à la tentation. Ce n'est pas « tu peux résister lorsque tu es tenté ». Tu peux résister lorsque ces pensées mauvaises viennent t'assaillir. Tu peux résister lorsque ces pensées de mort viennent t'assaillir. Tu peux résister lorsque ces pensées impudiques viennent t'assaillir. Tu peux résister lorsque ces pensées, cette habitude de mentir viennent t'assaillir. Tu peux résister dans le nom de Jésus, simplement parce que lui vient à résister. Alors, on n'est pas ici ce matin pour faire le tour numéro 7, mais juste quelques clés qui pourront nous permettre de tenir face à la tentation. Non pas donner des moyens, des méthodes, mais plutôt des motifs pour résister à la tentation. Quel est l'état de notre cœur? Quel état de notre cœur doit-il être, quels doivent être les motifs qui doivent s'y trouver afin que nous puissions résister lorsque les oiseaux viennent tourner autour de notre tête? Première clé, c'est réaliser que si je ne résiste pas à la tentation, je ne peux pas être efficace dans ma génération. Nous avons tous à cœur d'être efficace dans notre génération. Nous avons tous dans notre cœur de vouloir servir les projets de Dieu dans notre génération. Nous voudrions tous que notre famille ait converti, nous voudrions tous que nos voisins, nous voudrions tous que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent passer les ténèbres à son admirable lumière. Nous voulons tous mener le bon combat à la foi. Amen. Nous voudrions tous que les murs de cette église soient remplis. Amen. Nous voudrions tous que le livre de vie déborde de nous. C'est notre motivation, c'est notre joie, c'est notre aspiration. On prétend qu'il y a des âmes qui passent de les ténèbres à la lumière, on prétend qu'il y a des âmes qui sont arrachées des griffes du diable. Frères et sœurs, nous prouvant que si nous sommes capables nous-mêmes de résister à la tentation. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que si je ne suis pas en paix avec Dieu, ça ne peut pas être efficace dans le combat spirituel. C'est logique. Comment vais-je pouvoir prier alors que je sais que dans ma vie, eh bien, il y a une tentation qui est récurrente et à laquelle je cède de manière récurrente? Et vous, le diable, c'est l'accusateur des frères. C'est celui qui utilisera toutes les failles que l'on pourra lui livrer. À partir du moment où dans ma vie avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. À partir du moment où dans ma vie avec Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, le diable viendra souffler à mon oreille. C'est pas la peine que je prie. Dieu ne m'écoute pas. Quelqu'un qui a un péché dans sa vie. C'est pas la peine que tu serves dans l'église. Regarde ta vie, regarde ce qu'elle est. C'est pas la peine que tu t'engages avec Jésus. Regarde, regarde ce que tu fais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ainsi, le diable s'engouffre dans cette brèche et finalement, le diable nous empêche d'aller de l'avant, nous empêche d'être un témoin, nous empêche de sauver, de permettre au Seigneur de sauver des hommes et des femmes au travers de nous. Pour être un témoin dans notre génération, pour être un homme, une femme qui servira les projets de Dieu dans notre génération, nous devons être capables. Eh bien, de résister à la tentation. Seigneur, je veux dire non lorsque la tentation se présente à moi, afin, eh bien, de pouvoir véritablement être un objet, donc un instrument que tu utiliseras. Je veux dire non lorsque des choses mauvaises viendront, parce que je veux être une arme efficace, un outil affûté, qui travaillera pour toi et qui te permettra d'être utile pour ceux qui m'entourent. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il est merveilleux toujours de me dire que Dieu veut m'utiliser. Alors que mon père ne voulait pas que je porte un clou, Dieu m'utilise aujourd'hui pour annoncer l'évangile. Alors que ma mère ne voulait pas que je m'approche de la gazinière, aujourd'hui, eh bien, Dieu veut parler de Jésus. Et je peux permettre à des hommes, eh bien, de le connaître, d'être guéri, d'être sauvé. Et il en va de même pour nous. Que l'homme jeune fille, peut-être que tu es le dernier dans ta famille. Celui qu'on oublie, et sache que Jésus veut se servir de toi. Résiste à la tentation. Sois fort. Deuxième chose pour laquelle, eh bien, il est nécessaire de résister à la tentation pour être efficace dans sa génération, c'est que il ne faut pas être atteint d'une maladie qu'on appelle le strabisme spirituel. Qu'est-ce donc? Lorsque les conquistadors mexicains ont envahi le Mexique, ils ont trouvé le peuple Inca. Et l'Inca avait une particularité physique, c'est qu'ils considéraient que le boucher est un signe de beauté. Et donc, beaucoup de leurs dieux, notamment, avaient des yeux qui bouchaient. Et notamment, pour permettre à leurs enfants, eh bien, d'avoir ce signe de beauté distinctif, ils mettaient une sphère, une bille, au-dessus de leur berceau, de manière à faire le boucher des enfants et à déformer leur vue. Voyez-vous, il y a bien des chrétiens qui sont atteints, qui peuvent être atteints de strabisme spirituel. Et vous avez essayé de viser une cible en regardant deux points à quoi? Vous la bouche regardée. Si vous regardez à gauche et à droite, et que vous voulez toucher le lion, vous n'y arriverez jamais. Et comment peut-on être, eh bien, un homme de Dieu, plein de puissance, plein de l'onction du Saint-Esprit, lorsque l'on regarde un côté à Dieu, et de l'autre à la tentation qui nous tente? Comment peut-on toucher la cible? Comment peut-on atteindre le but si l'on regarde dans deux directions différentes? C'est pas possible. Non, Seigneur. Je ne veux regarder comme un tour 4 ou comme dit l'auteur aux Hébreux, chapitre 12, et au verset 2. Regardons toujours à Jésus. Regardons toujours à la personne de Jésus. Bien, même si ce monde me propose bien des choses, même si ma chair, même si ma volonté me propose bien des choses, je veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu dans ma génération. Et je ne peux pas être tenté. Et lorsque la tentation vient, je veux faire comme le Seigneur Jésus me le conseillera. Je veux arracher cette tentation. Je veux la couper de ma vie. Je veux l'enlever de ma vie. Parce que je préfère, eh bien, rentrer à bonne borne dans le royaume des cieux, plutôt que de ne pas y rentrer du tout. Que le Seigneur Jésus nous aide. Afin que nous puissions être, dans notre génération, des hommes et des femmes efficaces. Je veux résister à la tentation. Parce que je veux servir Dieu. Et que je sais qu'il se servira de plein de canaux sanctifiés.
je suis à soi, une petite image. Comment est-ce que je peux servir Dieu sans être proche de lui? Sors, c'était Kevin, ma cible. Allez, Jonathan, viens me voir. Lorsque je me convertis, lorsque je me donne à Jésus, je suis comme ça avec lui. Je suis comme ça. Et puis, lorsque les jours passent, là, il y a le moment de songe qui vient. Je me sépare un petit peu. Et puis, il y a la publicité qui vient. Je touche encore Jésus. Mais Jésus me touche encore, mais c'est pas encore. Je suis plus loin. Et puis, il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Et là, il y a une distance qui se crée. Et mes frères et sœurs, je ne peux pas être utile dans ma génération si je suis séparé de Jésus. Je ne peux pas être utile si je suis séparé, si je ne suis plus greffé sur le ciel. Alors, dans ces cas-là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de demander pardon. Et ce que fait Jésus, eh bien, c'est qu'il nous réouvre les bras. Et comme nous, on peut être proche de Jésus. Voyez-vous, Dieu nous a fait du latin. Voyez-vous, je ne peux être utile, et je ne serai utile que si je résiste à la tentation. Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses te servir de moi dans ma génération. Deuxième moyen, donc premièrement, vouloir être utile. Deuxième chose, qui à mon avis est l'un des moyens les plus forts, c'est de prendre conscience de l'amour que Jésus a manifesté pour nous. De prendre conscience de ce que Jésus a donné. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Parce que j'aime mes parents, je ne ferai rien qui puisse leur faire du mal. Et parce que mes parents m'aiment, ils ne feront jamais rien qui puisse me faire du mal. Faites-vous lorsque la tentation vient, lorsque les pensées mauvaises, les envies mauvaises viennent près de nous, que nous puissions nous souvenir à quel point Jésus nous a aimés. Que nous puissions nous souvenir que notre Dieu est un Dieu qui a des sentiments, que notre Dieu est un Dieu qui peut se réjouir, mais également un Dieu qui peut souffrir. Il se réjouit lorsque les pécheurs eh bien, se repentent, mais par contre, il pleure. Il a pleuré, Jésus a pleuré sur Jérusalem, ville qu'il a si souvent voulu rassembler. Ville dont les habitants ont si souvent été appelés. Lorsque je fais les choses bien, lorsque je suis obéissant, j'ai un Père qui est heureux dans les cieux. Lorsque je cède à la tentation, j'ai un Père qui pleure dans les cieux. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai fait pleurer. Je prends conscience que je t'ai fait pleurer bien des fois. Et pourtant, tu es un Père qui m'a tout donné. Tu es un Père qui m'a donné son Fils sur la croix du Calvaire. Tu es un Père qui m'a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que je sois sauvé. Alors, je demande à une fille, mon frère, ma sœur, toi bien, que plus la croix sera ancrée dans ton cœur, plus la pensée, que de l'œuvre du Seigneur Jésus, plus l'œuvre du Christ sera marquée dans ta vie, sera ancrée dans ta vie. Comme dira Paul, plus tu seras enraciné et fondé dans l'amour, et plus tu pourras tenir lorsque la tentation viendra. Plus tu pourras tenir lorsque la tentation viendra. Quelqu'un a écrit ceci un jour. C'est une personne anonyme qui dira la chose suivante. Effacer par la pensée ce qui subsiste de cette influence dans les domaines du beau, du vrai et du bien. Entrer dans les musées et décrocher des murs, d'images de Christ. Ôter les toiles ou les statues qui représentent les martyrs ou les apôtres. Rayer du nombre des compositeurs, Handel, Bach et tant d'autres. Expurger l'œuvre de Beethoven ou de Mozart de tout ce qui est inspiré par la religion chrétienne. Supprimer Bossuet et Pascal. Ôter Polyeur, la Corneille, Attali et Racine. Poursuivez le nom de Christ dans les vers de Lamartine et de Victor Hugo. Effacez toutes les traces qu'a laissées sur la terre le sacrifice de Jésus. Ce travail accompli, retournez-vous et regardez le vide que fait à travers l'histoire cette croix de moi dans le monde. Notre culture, notre littérature, nos arts sont imprégnés de la personne de Dieu. Notre vie doit être imprégnée de la croix, doit être imprégnée du sacrifice de Jésus. À partir du moment où je perds la connaissance, où je perds la notion de ce sacrifice, à partir du moment où je perds de l'intensité de ce que Dieu a donné, de ce que Jésus a offert, alors
plus prompte à subir la tentation. En revanche, à partir du moment où je cultive dans mon intimité, où je cultive dans mon cœur cette volonté de toujours aimer Jésus, cette volonté, eh bien, de toujours garder dans mon cœur l'œuvre de la croix accomplie par Jésus à Golgotha. À partir du moment où je m'astreins à toujours aimer mieux, à toujours aimer plus de Christ, alors je pourrai résister plus facilement. Si la croix disparaît d'église, l'église ne pourra pas résister aux temps qui viennent. Mon frère, ma sœur, la croix disparaît de ta vie. Tu as oublié l'œuvre de Jésus. Tu n'as pas analysé l'œuvre de Jésus. Les meurtrissures de Jésus n'ont plus la valeur qu'elles pouvaient avoir auparavant. Les souffrances de Jésus n'ont plus la valeur qu'elles pouvaient avoir auparavant. Reviens à la croix. Reviens à la croix. Reviens près de Jésus. Reprends conscience que son front a été percé pour toi. Reprends conscience que son corps a été meurtri pour toi. Et alors, cet amour te réenvahira tout à nouveau. Et lorsque la tentation viendra frapper, tu pourras dire non. J'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Et je ne veux pas céder. Je ne veux pas céder. Parce que l'amour pour mon Dieu est plus fort que le plaisir éphémère que la tentation peut me donner. Dans un couple, lorsque les choses vont bien entre le mari et la femme, en règle générale, le mari ne va pas voir un heure, la femme non plus. Mais lorsque les choses vont mal, alors la tentation se fait beaucoup plus forte. Et l'envie, l'adultère, devient de plus en plus importante. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. Lorsque je suis proche de Jésus, lorsque je cultive dans mon cœur, par la prière, l'amour pour l'œuvre de la croix, alors, je suis fort, je deviens fort, alors je peux résister. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous priez pour cela? Seigneur, que la croix, s'il te plaît, devienne vraiment de plus en plus souvent plantée dans mon cœur. Que la croix devienne profondément ancrée en moi. Seigneur, s'il te plaît, que je puisse aimer ton sacrifice. Que je puisse aimer ta personne. Que je puisse aimer ce que tu as fait. Que je ne banalise jamais cette œuvre-là. Et lorsque l'on ne la banalise pas, alors on devient des hommes forts, des femmes fortes, qui sont capables, non pas de ne pas être tentés, mais qui sont capables de résister à la tentation. Si j'aime Jésus, l'épreuve pourra venir frapper à ma porte, je tiendrai bon. Si j'aime Jésus, mon mari pourra devenir de plus en plus insupportable, je tiendrai bon. Si j'aime Jésus, ma femme de plus d'un emploi à devenir de plus en plus casse-pied, je tiendrai bon. Finalement, ma capacité à tenir dans l'épreuve a une fonction bien souvent de l'intensité de l'amour que j'ai pour Jésus. Peut-être que si tu tombes bien souvent, c'est parce que ton amour est bien faible. Dans ce cas-là, relis l'action du Christ. Relis l'évangile. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Et demande au Seigneur de te toucher tout à nouveau. Et tu verras. Tu verras quelque chose se faire dans ta vie. Une force, un courage supplémentaire revenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième chose, c'est une chose à tenir, on va plus bas, c'est de souvenir des flétrissures que le péché a engendrées dans ma vie auparavant. Moïse a renoncé a préféré être mal traité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il en va de même. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, on a parfois une mémoire sélective. On se souvient très facilement des bonnes choses, comme les Israélites se souvenaient des poissons et de la viande qu'il y avait en Égypte, mais on oublie très souvent du passé. Je pense que nous n'avons pas vocation à cultiver le passé, parce que c'est souvent un lieu à culpabilité, disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, parler de ce que l'on a fait de mal, et d'entretenir et de ressasser dans notre vie, ça n'a pas forcément une grande utilité. Mais en revanche, on doit se souvenir des cicatrices qui jalonnent notre passé, qui jalonnent notre vie. Et se dire, Seigneur, rappelle-moi d'où est-ce que tu m'as tiré. J'étais dans la boue, j'étais dans la fange. tu m'en as sorti. L'apôtre Paul était là en Romains, chapitre 6, au verset 9. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Et j'ai cette simple question à te poser. Peux-tu rougir à nouveau des conséquences de tes actes? Quand on fait le mal, on est pas fier. Surtout quand on connaît Jésus. Quand on fait le mal, il y a quelque chose qui va pas, le rouge qui nous monte aux pommettes, notre cœur est chiragué. Surtout quand on connaît Jésus. Les choses dans nos vies qui peuvent aussi en plus nous faire honte. N'oublions pas cette impression difficile. Et grâce à Dieu, eh bien, si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers des fruits que nous portons. Mes frères et sœurs, nous pouvons être fiers des fruits que nous portons, parce que nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par grâce. Et nos vies, eh bien, c'est plus une vie de honte. Nos vies, c'est plus une vie de tristesse. Notre vie, c'est plus une vie de choses que l'on cache. Qu'est-ce que j'ai pu cacher dans le tiroir de mon bureau? Oh, ben, c'est mes parents, c'est tout ce que j'ai pu cacher. Mais aujourd'hui, on peut ouvrir les tiroirs de mon bureau, t'as rien. Tout est visible. Qu'est-ce qu'on peut cacher? Qu'est-ce qu'on a pu cacher? Et c'est pénible de cacher les choses. C'est pénible de vivre dans une vie sans cesse de mensonges. Peux-tu revivre tout cela? Peux-tu revivre également cette séparation avec Dieu? Il est tellement bon d'être avec Jésus. C'est tellement bon d'être aux côtés de Jésus. C'est tellement bon de pouvoir se blottir dans les bras de Jésus. C'est tellement bon d'être en relation, d'être en communion, d'être en paix avec son Dieu. C'est tellement bon de pouvoir, eh bien, se dire que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes connus de Dieu, et que nous connaissons le Père. Tu es connu de Jésus. Veux-tu tout simplement brader cela? À cause de choses qui ne te donneront finalement qu'un plaisir éternel et qui, au final, tout cumulé, te feront souffrir. Jésus a tant de choses à t'apporter. Jésus a tant de choses encore à te donner. Tu n'en es qu'au début de ta marche avec Dieu. Tu n'en es qu'au début de ta conversion, peut-être. Ne lâche pas. Jésus a encore tant de choses à te donner. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Ne retourne pas à ce qui t'a fait souffrir. Ne retourne pas à la séparation avec ton Créateur. Tu as tant de choses à donner. Tu as tant de choses à communiquer. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Mais reste les mains, la main dans la main du maître. Ne lâche pas. Tu as tant de choses. Souviens-toi de ce que tu as souffert. Souviens-toi de Dieu qui est. Et reconnais que ta situation actuelle, même si elle te paraît difficile, est tout de même bien plus enviable. Parce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé une dignité. Tu es redevenu quelqu'un. Quelqu'un sur cette terre, et c'est encore bien ambitieux, puisque tu es devenu l'enfant du roi. Tu es redevenu l'enfant du roi. Souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Repends-toi et pratique tes œuvres premières. Dira le Saint-Esprit à une des églises de l'Apocalypse. Souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Mon frère, ma sœur, et une pensée de Dieu. Souviens-toi. Et sache que le Seigneur va encore parler plus loin. Va encore parler plus loin. Vous savez, savoir d'où est-ce qu'on vient, ça nous sort, ça nous permet d'avoir des éléments solides pour fonder l'avenir. Prenez l'apôtre Pierre par exemple. À cette année, alors que Jésus voulait que l'apôtre prie avec lui, eh bien, il va s'endormir. Et grand mal lui en coûtera, puisque par la suite, il va renier Jésus. Vous connaissez tous ce récit. Et une fois qu'il va être rétabli par Jésus, notamment la petite dernière, eh bien, quand on poursuit un petit peu la lecture des actes des apôtres, enfin, les actes des apôtres au chapitre 10, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre cher Pierre, qui est un mélange de talons, hein, et il est midi. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il est en train de prier.
il est en train de prier. Et c'est là qu'il va avoir cette vision avec cette nappe et avec ces animaux là. Et ça va être le début d'une organisation pour les païens. Il est en train de prier.
L'homme qui ne priait pas, l'homme qui est tombé parce qu'il ne savait pas prier, eh bien à midi, à la sixième heure, il est en train de prier. Il est en train de tenir devant Dieu. Et plus tard, alors qu'il écrira aux églises, dans sa première épître, il dira son histoire, priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, résistez-lui fermement la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'homme qui n'avait pas su veiller, il exhorte les églises persécutées à le faire. Pierre a appris son passé. Il se souvient de tout ce qu'il vient. Il se souvient de pourquoi il a chuté. Et aujourd'hui, il en tire des leçons pour sa vie et pour la vie de ceux qui les entourent. Seigneur, s'il te plaît, que ta grâce est bien, puisse nous apprendre, puisse nous enseigner. Seigneur, s'il te plaît, que nous puissions toujours nous souvenir d'où est-ce que nous venons. Et que tu puisses nous enseigner à faire de nos erreurs, à faire de nos échecs, et bien, à faire de nos échecs des choses positives. Que le nom du Seigneur soit béni. En conclusion, deux fois. Première chose, c'est ce que dira Churchill. Il dira, je ne veux pas connaître, c'est à certains de ses collaborateurs, je ne veux pas connaître vos histoires, mais je veux savoir comment vous vous êtes relevé de vos échecs. Finalement, la caractéristique d'homme et de femme de Dieu, ce n'est pas d'être des hommes et des femmes qui sont toujours debout, qui vont toujours bien, qui ne cèdent jamais à la tentation, le moins souvent possible, bien sûr. Mais la caractéristique d'homme et de femme de Dieu, c'est qu'ils savent se relever avec la grâce de Dieu et qui savent demander pardon. Voyez-vous, notre marque d'homme de Dieu, ce ne sera pas d'afficher pour un grand sourire en disant les choses vont bien. Nous ne serons pas des femmes de Dieu, et vous, mes sœurs, vous ne serez pas des femmes de Dieu, en nous disant que tout va toujours très très bien et que vous êtes toujours sur votre patte. Et on devient un homme et une femme de Dieu, à partir du moment où on sait aller au trône de la grâce pour demander pardon. Et pour se relever. Seigneur, je suis tombé, pardon, cette semaine. J'ai péché. J'en ai pris conscience. Ton esprit, ce matin, me l'a attesté. Eh bien, je viens au trône de la grâce. Je viens te demander pardon. Relève-moi, mon Dieu. Et donne-moi la force de ne plus retourner. Et deuxième chose, c'est que Jésus n'est pas celui qui nous condamne. Jésus n'est pas celui qui nous fustige. Jésus n'est pas celui qui va nous couper la tête, qui va nous couper notre poids en te disant, eh bien, tu n'es qu'une bonne à rien, tu n'es qu'un bon à rien. Et Jésus est celui qui nous prend dans ses bras et qui nous dit, tu es tombé, t'as pas à être fier. Par contre, je vais t'aider à te relever et tu seras plus fort. Tu seras plus fort. Il y a bien des tentations dans notre esprit qui passent. Il y a bien des pensées au cours d'une journée qui passent dans notre esprit, dans notre tête. Pensez de défaite, pensez d'impudique, pensez de mort, pensez d'abandon de la foi, pensez de critique, pensez amer, pensez sans une chose, et laissez vivre en nous sans une autre. Que le peuple de Dieu ne vive jamais dans une fatalité. Que le peuple de Dieu ne vive jamais en se disant que finalement, contre ses pensées, contre sa passion, il n'y a aucun moyen. 100 fois tu tombes, 100 000 fois je crois que tu te relèves. Le véritable héros, ce n'est pas celui qui reste toujours debout, mais c'est celui qui est capable de soigner ses blessures, de se relever et de repartir en combat, et qui sera trouvé debout. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a plus de force, il y a plus d'honneur à demander pardon qu'à cacher sa faute. Et il y a ce passage de l'Écriture qui dit que celui qui cache ses fautes, eh bien, ne prospère point. C'est donc ceux qui confessent nos fautes, afin, eh bien, de prospérer avec le Seigneur, et de devenir des hommes et des femmes de Dieu. Tu peux tenir. Tu peux tenir. Pour récapituler, tu peux tenir parce que tu peux être utile dans ta génération.
tu peux tenir parce que tu aimes Dieu et que tu cultives le souvenir de Jésus dans ta vie. Et tu peux tenir parce que tu sais d'où est-ce que tu viens et que tu sais que ta situation actuelle est bien plus envers et que Dieu a encore des choses pour toi. On reprend cette citation de Churchill, qui n'est qu'approximative, mais je ne veux pas connaître vos victoires, mais je veux connaître comment vous êtes relevé de vos échecs.